L'Inquisition ne saurait se réduire à une police de la croyance. Elle s'inscrit dans le mouvement global de la société qui correspond en Europe occidentale à la genèse, à l'affermissement, puis à l'apogée de l'État moderne. Jean-Louis Biget, professeur d'histoire médiévale à l'École normale supérieure et spécialiste de l'histoire de l'Inquisition.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Un seul Dieu, une seule vérité, une seule Église. C'est par ce triptyque que l'on peut essayer de comprendre la genèse, l'organisation et l'action de l'Inquisition au XIIIe siècle et au XIVe siècle. En effet, aujourd'hui la difficulté est sans doute de saisir que l'Inquisition est née dans un contexte où l'idée de conscience personnelle, de liberté religieuse et de liberté de conscience, ou même tout simplement de tolérance, était une idée extrêmement absente de la société du temps. Le pire était plutôt l'hérésie, car l'hérésie était perçue comme une déviance qui mettait en danger l'ensemble de la communauté chrétienne. Et donc, il fallait, pour le salut des hommes, et d'ailleurs pour le salut des inquisiteurs eux-mêmes, essayer de lutter de toutes les forces possibles contre ces hommes et ces femmes qui, par leur déviance religieuse, mettaient en danger l'ensemble de la communauté vis-à-vis de Dieu. Cette idée est déjà présente d'ailleurs dès le IVe siècle chez Augustin, et saint Thomas d'Aquin estimera lui aussi qu'il fallait faire de l'hérésie un crime à punir. Mais pour comprendre l'Inquisition et cette histoire de l'Église médiévale, il faut essayer de prendre la longue durée. L'Inquisition est le fruit de la réforme grégorienne, c'est-à-dire de la volonté de réformer et de préciser le pouvoir de l'Église à partir du milieu du XIe siècle. La centralisation pontificale et l'autorité de l'évêque de Rome sur l'ensemble de la chrétienté va se développer. Ce condé d'ailleurs par des grands ordres, Cluny et Cîteaux, puis au XIIIe siècle, par les dominicains et les franciscains. C'est aussi le moment où va s'affirmer l'État monarchique, la centralisation monarchique, avec un appareil d'État qui finalement se met en place à partir de Philippe Auguste en France, et qui va se développer dans la seconde moitié du XIIe siècle et au XIIIe siècle. Le problème aussi qui se pose est le développement des villes. La question de l'hérésie, le combat que l'Inquisition va mener contre elle, se pose en Occident au moment où la ville, et donc la bourgeoisie urbaine, se développe. Or, une nouvelle culture, une nouvelle curiosité prend également sa place. De nouvelles attentes religieuses. Des hommes qui sont un peu plus instruits que leurs devanciers demandent à avoir accès aux textes, désirent lire les évangiles. Et le problème, c'est que certains vont mettre en opposition l'évangile et l'Église institutionnelle, accusés de corruption, de richesse, d'abus de pouvoir. Aussi, il a bien fallu à un moment donné que celle-ci, au nom d'une vérité qu'elle estimait devoir défendre, crée quelque chose, une institution qui luttera contre ce qui est considéré comme déviance. Le pape Innocent III, élu en 1198, et qui d'ailleurs ne se fait plus appeler vicaire du Pierre, mais vicaire du Christ, estime, en la deuxième année de son pontificat, en 1199, qu'il faut combattre ce qui appartient à l'hérésie au nom de la majesté divine. Le crime d'hérésie est un crime de lèse-majesté divine qui peut aller jusqu'à la punition de la confiscation des biens et de la mort. D'autre part, le contexte de la croisade dite des Albigeois dans notre région à partir de 1209, et ce pour une vingtaine d'années, va créer le contexte favorable à l'émergence de l'Inquisition dans le Languedoc. Le Concile de Toulouse de 1229 établit qu'il faut rechercher les hérétiques en tout lieu, qu'il faut organiser éventuellement la prison, et que l'Inquisition est une juridiction exceptionnelle pour la protection de la foi. Si, dans un premier temps, on avait confié aux évêques des tribunaux inquisitoriaux, le pape Grégoire IX décide, en 1233, de statuer en faisant du tribunal d'inquisition une institution de droit pontifical. Pour le Saint-Empire, il va nommer, par exemple, Conrad von Marburg en Allemagne, qui d'ailleurs sera assassiné en juillet 1233, s'étant rapidement fait de nombreux adversaires. Ce tribunal, qui est confié à des dominicains, également à des cisterciens et franciscains, mais qui peut être également confié à des séculiers, va mener une enquête serrée pour lutter contre l'hérésie, en particulier la nôtre, c'est-à-dire la cathare dans notre région du Languedoc. Et cette mémoire va longuement peser sur l'histoire régionale. Il est indéniable que la question du catharisme, sur lequel il ne faut pas entrer aujourd'hui, explique en grande partie la question de l'Inquisition dans la région du Languedoc, qui est entrée dans l'orbite royale à partir de 1229. Ce qui va effectivement poser problème, c'est que les villes du Languedoc vont être surprises par la manière dont l'Inquisition mène les enquêtes et rend la justice. L'Inquisition ignore le droit traditionnel, les franchises des villes. Le seul recours possible est faire un appel au pape. Mais finalement, il est très délicat de faire un appel au pape, d'autant plus que l'institution est elle-même de droit pontifical. Comment travaille l'Inquisition ? D'abord, en ne faisant pas de publicité des débats. L'enquête reste secrète, les débats sont à huis clos. Les accusés ignorent qui exactement les accuse et les témoins ne leur sont pas présentés. Par contre, on leur demande si éventuellement ils pensent qu'il y a des personnes dans le village ou le quartier qui peuvent leur en vouloir beaucoup, au point éventuellement de les calomnier. Le secret permet aussi, soit dit en passant, d'éviter les représailles contre les dénonciateurs. D'autre part, l'homme ou la femme accusée comparaît seul, devant des universitaires, car les inquisiteurs sont des hommes de culture, qui connaissent le droit et qui sortent frais et moulus des universités comme Bologne, par exemple. Ainsi, l'Inquisition est allée jusqu'à faire des procès posthumes envers des décédés en qui on a reproché d'avoir eu des coupables déviance vers l'hérésie. Aussi, les débuts de l'Inquisition ne sont pas aisés sur le territoire languedocien. Il y a des révoltes à Albi, où le chef de l'Inquisition manque de passer dans le Tarn, à Narbonne, à Toulouse en 1235, où les dominicains vont être expulsés pendant quelques semaines. Ainsi, il y a même la révolte de 1242 à Avignonnet, où trois dominicains vont être massacrés, ce qui amènera finalement à une reprise des combats avec la prise de Montségur en 1244. Ceci amènera l'enquête générale auprès de deux par deux inquisiteurs, Jean de Saint-Pierre et Antoine de Caux. Ceux-ci, d'ailleurs, n'hésitent pas, comme cela fut le cas au cours du XXe siècle, dans l'Italie qui lutte contre la mafia, d'utiliser des repentis. Un des plus célèbres est Sicard d'Ambre, qui livra à peu près 50 personnes, lui-même ayant abjuré son hérésie. Ce qui est important à noter, c'est que l'Inquisition est aussi l'occasion de noter l'évolution de l'écrit. L'Inquisition s'explique et se comprend aussi avec le développement de la culture écrite. On fait des archives où sont notées les dépositions des uns et des autres, les aveux, archives ô combien précieuses pour les historiens médiévistes. D'autre part, on établit des manuels des inquisiteurs, pas seulement d'ailleurs sur parchemin, mais sur papier chiffon, ce qui est d'un coût bien moindre. Le premier de ces manuels date de 1242. Le plus célèbre est celui de Bernard Guy en 1323. Arrêtons-nous justement sur l'activité de Bernard Guy. Celui-ci a été inquisiteur dans notre région entre 1308 et 1323. Il a eu à en juger environ 900 personnes. 43 ont été exécutés par le feu. 33 ont été condamnés à des murs stricts, c'est-à-dire à une prison ferme dans une geôle dont on ne sortait pas. 277 ont été condamnés par Guy à ce qu'on appelle les murs larges, c'est-à-dire une résidence surveillée, où on peut recevoir de la nourriture par des proches, on peut recevoir des visites, on peut se promener. Ainsi, il y a effectivement mort, prison, mais également d'autres peines. Par exemple, des peines de pèlerinage. On demande aux repentis d'aller à Rome, à Compostelle, à Cologne, ou alors à des pèlerinages beaucoup plus proches. Ainsi, l'Inquisition a été fille de son temps. Elle a cru combattre, sans doute sincèrement, pour le salut des âmes, l'hérésie. Nous ne sommes pas effectivement à notre époque. Réfléchir historiquement sur l'Inquisition, ce n'est ni la porter au pavois, en disant que finalement elle n'a fait que défendre le catholicisme, ni l'avouer aux gémonies en faisant de l'anachronisme, mais c'est réfléchir à un moment où l'Église a une vocation théocratique, où son administration se peaufine et où elle peut s'appuyer, puisqu'elle livre aux bras séculiers, sur des monarchies de mieux en mieux organisées.